l'invité du jour.
Le maire de Commentry, Claude Riboulet, notre invité ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, Commentry, où il y a eu un conseil municipal la semaine dernière. Et évidemment, c'est le sujet qui intéresse beaucoup les parents actuellement. Après Montluçon, c'était mardi dernier. Le conseil municipal s'est aussi prononcé en faveur du retour à la semaine de 4 jours pour les rythmes scolaires. Expliquez-nous pourquoi à Commentry.
La première position que nous avons prise avec le bureau municipal, c'était de garder le statu quo pour la rentrée de septembre 2017. Mmh. Parce que nous n'avions pas encore connaissance du projet de décret du ministre de l'Éducation nationale, et surtout parce que les conseils d'école ne s'étaient pas positionnés sur ce sujet-là. Entre-temps, les directeurs et directrices des 5 écoles de Commentry ont convoqué un conseil d'école extraordinaire le lundi 12 juin dernier, mmh, avec un seul point à l'ordre du jour, qui était de demander au conseil d'école leur avis sur, première solution, rester sur une semaine de 4 jours et demi avec l'étape, deuxième, ouais, solution, revenir sur une semaine de 4 jours. Je me permets de rappeler que dans les conseils d'école siègent les représentants des parents d'élèves, les enseignants, élus, des DEN. Mmh. Et il s'avère que les 5 écoles ont toutes choisi, soit l'unanimité, soit la majorité, le retour à la semaine de 4 jours. Donc, à partir de là, ma position et celle des élus du groupe majoritaire, elle est simple. C'est de dire, on entérine le choix des conseils d'école, c'est-à-dire le choix des parents et des enseignants, partant du principe que, et c'est du bon sens, ce sont les mieux placés pour savoir ce qui est bien pour leurs enfants. Mmh. Je me permets de rappeler que quand il s'est agi de mettre l'étape en place à l'époque, on a respecté exactement la même méthode. Ce que la commune a organisé, c'est ce que majoritairement les conseils d'école avaient choisi. Donc là, effectivement, moi je vois pas sur quel motif j'aurais pu aller contre l'avis des 5 conseils d'école à vouloir revenir à la semaine de 4 jours.
Est-ce que avec les économies que vous allez faire là, du coup, il y a des choses qui sont prévues? On sait qu'à Montluçon, il y a eu des promesses de réorienter un petit peu ces budgets vers les écoles, justement.
Moi, je fais pas de promesses de cet ordre-là pour deux raisons. La première, c'est que ce que la commune consacre aux écoles et à des activités ou des animations pendant le temps scolaire, c'est déjà très important. Mmh. Intervenant musical, atelier à la médiathèque, la piscine, on met déjà beaucoup d'argent pour accompagner les enfants dans leur parcours éducatif. Bien. Puis la deuxième raison, c'est que aujourd'hui, cet argent, ça sera surtout des économies dont on va avoir besoin. Bon, donc je vous dis pas qu'il y aura rien pour les écoles, ouais, mais je dis pas que ça va être automatiquement ventilé sur les écoles.
Alors, lors du dernier conseil municipal, a également été voté le développement de la vidéoprotection. 3 nouvelles caméras près de la gare. Est-ce que c'est nécessaire à Commentry?
Écoutez, je redis ce que j'ai dit d'ailleurs pendant la campagne municipale. Commentry, c'est pas le Bronx. Bien. Mmh. Mais il se passe aussi malgré tout un certain nombre de choses à Commentry. Il y a des vols, il y a des violences aux personnes. Bon, c'est une réalité. Ce dispositif, de mon point de vue, il a fait ses preuves. Et je m'appuie pas, moi, sur des études ou des choses comme ça. Je m'appuie sur une seule chose. Le travail quotidien qu'on a avec la gendarmerie de Commentry. Qui est d'ailleurs, lors du CLSPD, du Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, donné des éléments factuels pour montrer que le système de vidéoprotection leur a été utile. En mars dernier, c'était 16 dossiers de vol, de violence, 16 dossiers que la gendarmerie a portés dans le cadre de l'enquête, mm-hmm, et pour lesquels les images ont permis d'identifier les auteurs, de les interpeller, soit localement, soit même au niveau national. Il y a même un dossier où c'est les images de Commentry qui ont permis d'interpeller les auteurs qui étaient sur une grande traversée de la France, mm-hmm, à Mulhouse. Donc moi, le seul argument qui compte, c'est est-ce que oui ou non ce dispositif est utile aux forces de gendarmerie et à la justice pour améliorer la sécurité ou l'identification et la condamnation de ceux qui se livrent à des actes délictueux. De fait, la réponse est oui. Et il s'agit bien évidemment pas, parce que moi je suis jamais dans l'exagération, vous le savez, d'en mettre partout. Il s'agit simplement d'en mettre aux endroits où ça peut être utile, et utile à qui? Aux forces de gendarmerie, pour pouvoir résoudre des enquêtes.
Donc aux abords de la gare, c'était nécessaire?
Là, c'est aussi parce qu'on a une proposition de financement de la part du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui gère les espaces du réseau ferroviaire et notamment les gares, une proposition de subvention. C'est un lieu où il y a un certain nombre de choses qui se passent, il y a des gens qui sortent, qui rentrent, il y a des arrêts de bus, etc. Et ça peut permettre de sécuriser, c'est aussi des jeunes, oublions-le pas, hein, les étudiants qui prennent le train, etc. Ouais. Donc puisqu'on a des subventions supplémentaires, je pense que c'est un point important. De même, ce que l'on va rajouter au niveau de tout l'axe traversant rue Jean Jaurès, rue Christophe Thivrier, qui est un point où les véhicules et les flux de véhicules passent beaucoup, et de même à proximité du lycée.
Quelques mots des projets, la réhabilitation notamment de la maison des associations.
Oui, donc ça c'est un projet où on a mis 3 ans pour le travailler. C'est le site de l'ancienne piscine municipale, où le projet est un projet de mutualisation d'un certain nombre de services, des bureaux, salles de réunion, foyers pour les associations. On va y réinstaller le point d'information jeunesse et le service jeunesse qui s'occupe des animations en direction des jeunes. Ça sera aussi le point de base du service des sports. Et les aménagements extérieurs pour lesquels on a demandé des subventions, ça va être de refaire le skatepark qui a été démonté parce qu'il a été dégradé, ouais, et qui était peut-être pas au meilleur endroit. En tout cas, d'après les plaintes que j'ai eues des riverains, c'était pas leur plus grande satisfaction, et de réinstaller une aire de jeu ouverte, vous savez, cage de but,
basket, stade,
exactement, ce genre de choses, sur les extérieurs. Voilà, donc c'est un projet, les consultations sont en cours pour choisir les entreprises qui vont faire les travaux. C'est un projet qui va sortir dans un peu moins d'un an. Il y a eu un nombre de réunions de concertation avec les associations, avec le Conseil des jeunes, et c'est un projet de mutualisation.
Mmh. Un petit mot des gros projets économiques qui dépendent pas de la mairie de Commentry, mais qui
sont de la communauté de communes, oui.
Ouais, il y a notamment la centrale biomasse à Dicéo. Où est-ce qu'on en est de ce dossier? Alors, on n'entend plus trop parler.
Je peux pas vous donner tous les éléments qui sont à ma connaissance. Aujourd'hui, on va faire simple. Il y a un certain nombre de retards techniques dans le calage de cette cogénération biomasse, mmh, qui ont retardé la mise en service pleine et entière.
Voilà. Ouais. Parce qu'on est loin finalement des calendriers qui étaient annoncés à la base.
Tout à fait.
Mais le sujet, enfin le projet est toujours d'actualité.
Mais il y a d'ailleurs tout intérêt pour la viabilité du projet à ce que les solutions techniques soient réglées très vite.
Bon, vous avez un délai là-dessus?
Non, non. C'est pas à moi de le communiquer, c'est au porteur de projet.
Bon, il y avait cette installation de bioraffinage aussi qui était...
Alors c'est un projet qui là met un peu plus de temps, qui est aussi piloté surtout par Adiceo, puisque dans ce projet-là, la commune a cédé à Adiceo une propriété qu'il avait et qui était inoccupée, et Adiceo a fait des constructions de ce site. C'est un projet qui met un peu plus de temps, mais qui aujourd'hui n'est pas complètement enterré. Je rappelle simplement qu'il s'agissait d'un projet pour construire un démonstrateur. Donc on est sur une société qui est un peu start-up, qui développe un nouveau process qui valorise extrêmement bien la biomasse pour créer du biocarburant et pour créer surtout des produits dérivés, des, entre guillemets, c'est des sortes de matières plastiques, mais d'origine 100% végétale, et à partir de ce qu'on appelle la leaning. Mais aujourd'hui, c'est un projet qui est en train de se consolider, mais qui est encore en travail.
On va pas en parler un petit peu plus de politique là pour terminer. Votre vision des législatives, avec un petit peu de recul maintenant, l'élection de Laurence Vanceunebrock notamment, comment vous voyez ça?
Écoutez, l'Allier a connu ce que la plupart des circonscriptions en France ont connu. C'est-à-dire deux phénomènes, de mon point de vue, ils ne sont pas exclusifs, majeurs. Premièrement, la logique qu'après le résultat de l'élection présidentielle, les électrices et les électeurs donnent au président de la République une majorité parlementaire, ce qui est une logique classique,
même
historique,
avec des candidats qui n'étaient pas forcément bien connus du secteur.
Et deuxième paramètre, c'est un taux de participation particulièrement faible, qui traduit simplement que les électeurs qui étaient convaincus par les candidatures En Marche sont allés voter, et que les électeurs, on va dire, des autres mouvances politiques traditionnelles se sont plutôt abstenus d'aller voter. Et qu'à partir de là, les habituels calculs de report de voix, d'enjeux du second tour n'étaient plus du tout les mêmes, les paramètres n'étaient plus du tout les mêmes. Et donc, il y a eu ce mouvement de fond, voilà, qui a aussi porté dans l'Allier 2 circonscriptions sur 3. Et je crois que c'est aussi une nouveauté de la vie politique. Mais peut-être qu'on pourrait trouver dans le passé des candidats issus des partis traditionnels qui n'étaient pas forcément très connus, qui ont aussi gagné des législatives sur la dynamique de l'élection présidentielle.
Et puis dans la montagne, vous disiez il y a quelques semaines ne pas fermer la porte à la présidence du conseil départemental, car on rappelle que le président Gérard Dériot est sous le coup de la loi sur le cumul des mandats. Est-ce que votre position a évolué?
Non, ma position n'a pas évolué. Je tiens à être extrêmement précis sur ce sujet-là. Premièrement, Gérard Dériot n'a pas encore dit ce qu'il choisit.
Oui. C'est vrai, il est sénateur, on rappelle.
Il est sénateur et président du conseil départemental. C'est à lui et à lui seul qu'appartient la décision soit de rester président du conseil départemental, soit de rester sénateur. Conseiller départemental pour rester sénateur et ne plus être président. Donc ça, c'est la première chose, et elle est quand même juste...
Bien sûr, elle est importante, oui.
Deuxième chose, la majorité du département, le groupe de l'Union républicaine pour le Bourbonnais, est constitué de 20 élus. ce sont ces 20 élus qui décident,
oui, mais...
dont je fais partie. Et donc, ça sera évidemment au groupe majoritaire de choisir le ou la futur président ou présidente du conseil départemental, si Gérard Dériot décidait de ne pas garder cette fonction. Troisièmement, je laisse ouvert cette possibilité à mes collègues de choisir parmi nous s'ils souhaitent que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Et je m'en remettrai bien évidemment à ce que mes collègues auront choisi au moment opportun. Mais autant en 2015, je venais juste d'être élu maire de Commentry et j'avais annoncé clairement que je ne souhaitais pas prendre cette fonction puisque je ne pouvais plus rester maire. J'aurais pu redevenir et je pourrais toujours redevenir premier adjoint. Autant là, mi-mandat est passé. Les projets les plus importants et structurants sont tous soit réalisés, soit lancés. Je tiens à dire que si d'aventure je devenais président du conseil départemental, je reste évidemment élu à Commentry et je peux rester sans aucune difficulté premier adjoint, ce que j'ai été pendant deux mandats sous Jean-Louis Gaby. Donc ça ne pose pas une difficulté en soi. Mais encore une fois, pour l'instant, je ne ferme pas la porte, mais ce n'est pas à moi seul qu'appartient la décision.
Claude Riboulet, maire de Commentry et conseiller départemental. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
L'invité du jour.